Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Au Soudan, les chefs du mouvement de contestation ont qualifié ce jeudi de regrettable la décision des militaires de suspendre pendant 72 heures les négociations sur une transition politique. Les contestataires soulignent leur détermination de maintenir le sit-in de Khartoum devant le quartier général de l'armée. Pour sa part, le Conseil militaire au pouvoir depuis la destitution le 11 avril du président Omar al-Bashir estime cette pause dans les négociations nécessaires pour mettre fin à la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale où les manifestants bloquent de nombreuses routes. Face aux plaintes de l'armée, plusieurs barrages routiers ont été levés et la circulation a repris aujourd'hui sur un grand nombre d'artères autour du sit-in de Khartoum. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Nous avons décidé de suspendre la discussion pendant 72 heures pour préparer le terrain à la conclusion d'un accord sur la transition, a déclaré le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, dans un discours à la nation retransmis par la télévision publique tôt ce matin. Le dirigeant de ce conseil qui avait évincé le 11 avril, le président Omar el-Béchir, n'a pas totalement fermé la porte aux négociations sur un transfert du pouvoir aux civils, mais il a mis la pression sur les chefs de la contestation pour qu'ils contrôlent mieux leurs troupes. Il a souhaité pendant la période de 72 heures, une levée des barricades à Khartoum, la réouverture d'une ligne de chemin de fer liant la capitale au reste du pays, qui a été fermée selon lui par les manifestants, et la fin de leurs provocations à l'égard des forces de l'ordre. Le conseil militaire et les dirigeants de l'ALC étaient censés plancher mercredi soir sur la composition d'un conseil souverain, institution clé de la période de transition fixée à 3 ans après avoir progressé sur la formation d'une assemblée législative.
En République démocratique du Congo, Heather Merritt, sous-secrétaire d'État adjointe américaine, est en visite du 15 au 16 mai à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga dans le sud-est du pays. Madame Merritt a eu des consultations avec le gouverneur de la province, le responsable de la police et des leaders communautaires afin de mieux comprendre les priorités sécuritaires de la seconde grande métropole de la RDC, nous dit notre correspondant sur place, Narval Mabila. La sous-secrétaire d'État adjointe a aussi rencontré le procureur général, le président de la cour d'appel et des greffiers pour discuter du renforcement du système judiciaire. Heather Merritt a aussi réitéré le soutien des États-Unis à l'engagement du président congolais Félix Tshisekedi à lutter contre la corruption et à améliorer l'état de droit en RDC. Burundi, la justice burundaise a ordonné la saisie des biens, notamment immobiliers, d'une trentaine d'opposants en exil. Dans une déclaration conjointe signée mardi, le président de la Cour suprême et le procureur général de la République ont demandé la saisie des biens meubles et immeubles de 32 personnalités en exil pour que les biens en question soient exploités par l'État. Il s'agit des propriétés des leaders des partis d'opposition et de figures de la société civile qui ont mené la contestation contre la réélection en 2015 pour un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, ainsi que de journalistes des médias burundais indépendants vivant en exil. La même déclaration demande aussi la saisie des immeubles appartenant à 9 officiers supérieurs condamnés à la prison à perpétuité pour avoir pris part au coup d'État de 2015, des biens qui doivent également être versés dans le patrimoine de l'État. Afrique de l'Ouest maintenant, Côte d'Ivoire, les affrontements entre populations Dioula et Baoulé ont fait des dizaines de blessés, dont 6 membres des forces de sécurité à Béoumi, dans le centre du pays. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les affrontements ont été provoqués par une vieille querelle entre les chauffeurs de taxi brousse d'ethnie Dioula et les conducteurs de taxi moto de l'ethnie Baoulé. D'après Innocent Kofi, agriculteur Baoulé à Béoumi, je cite, une altercation entre un chauffeur de taxi brousse et un conducteur de moto-taxi à la gare des taxis brousse a ravivé la tension avant de dégénérer en bataille rangée. En plus des blessés, plusieurs maisons et véhicules ont été incendiés. La gendarmerie a dû intervenir en faisant usage de gaz lacrymogène pour séparer les deux camps. Les affrontements intercommunautaires, parfois meurtriers, sont fréquents en Côte d'Ivoire qui compte plusieurs dizaines d'ethnies et une importante communauté étrangère. Ces heurts sont souvent liés à la propriété foncière mais aussi au transport.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Niger, la région de Tillabéri dans l'ouest du pays a été de nouveau le théâtre d'une attaque mercredi. 28 soldats nigériens ont été tués dans un assaut près du village de Tongo Tongo, non loin de la frontière du Mali. Pour en savoir plus, Morgane Guilliec a joint Moussa Aksar, consultant sur les questions de sécurité au Niger.
Selon nos informations recoupées, ce sont des éléments du détachement de Walam qui étaient à la poursuite des assaillants qui ont attaqué la veille la prison civile de haute sécurité de Kout-Kale, qui se trouve à environ 30 km de Niamey, qui sont tombés sur cette embuscade tendue probablement par des éléments terroristes de El Sahraoui, dont c'est la zone de prédilection qui va de Tongo-Tongo à la frontière malienne et burkinabé, liée à Al-Qaïda au Maghreb.
Donc beaucoup d'attaques ont eu lieu dans cette région de Tillabéri. Des Américains avaient été tués dans une embuscade en 2010. Plus récemment, des églises ont été attaquées dans cette zone, au Niger et au Burkina. On a eu également cette attaque contre une prison du Niger que vous avez mentionnée. Comment expliquer cette accélération des attaques?
Vous savez, nous sommes dans un mois du carême où il faut s'attendre à ces attaques. Et le groupe terroriste profite de ce mois pour attaquer les positions de l'armée. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'ils vont plus loin. Ils s'attaquent à des églises et aussi à tout ce qui est symbole de l'État. Et on constate sur le terrain que le G5 Sahel n'est pas opérationnel. Donc ce groupe profite de cet atonnement aussi pour faire une diversion d'abord vers le Burkina, ensuite venir attaquer les positions de l'armée nigérienne. Et maintenant, ils vont même en profondeur dans des zones plus reculées, notamment le Bénin, et aller au Burkina, le Togo aussi.
Dans cette zone, on a les armées nationales, mais on a aussi plusieurs forces internationales qui sont déployées. Les Américains ont des drones au Niger, on a Barkhane, G5 Sahel que vous avez mentionné, la MINUSMA au Mali. Alors comment expliquer qu'on n'arrive pas à endiguer le phénomène avec toutes ces forces en présence?
On peut dire qu'il y a un problème de coordination d'abord de ces forces-là. Aujourd'hui, je peux vous dire, avec l'attaque de Tongo-Tongo déjà, on me parle d'une action conjointe de Barkhane et aussi des forces des États-Unis stationnées au Niger. Toutes ces forces n'ont pas une bonne coordination. Et deuxièmement, vous avez le manque de renseignements humains, vu la pauvreté dans cette zone-là, parce qu'il y a l'absence de l'État. Ça fait plusieurs années que ces zones ont été délaissées, les groupes armés et ceux qui se sont implantés. Tant qu'on n'a pas les renseignements humains, tant qu'on n'arrive pas à sensibiliser les populations, tant qu'on ne s'appuie pas sur les chefs traditionnels, tant qu'on ne s'appuie pas sur les oulémas qui pratiquent un islam modéré, on ne peut pas endiguer ce problème-là. Et c'est là la faiblesse de ces États-là, du Mali, du Niger et du Burkina.
Moussa Aksar, consultant sur les questions de sécurité au Niger. Relations États-Unis-Chine, Pékin a mis en garde Washington ce jeudi contre une atteinte aux liens commerciaux bilatéraux. Et ce, au lendemain d'une interdiction faite au réseau de télécommunications américain de se fournir un équipement auprès de sociétés étrangères considérées comme présentant un risque pour la sécurité nationale. Cette mesure prise par le président américain Donald Trump semble cibler en priorité la Chine et l'opérateur de télécom Huawei. Actualité américaine toujours, les républicains du sud des États-Unis ont lancé une grande offensive contre le droit à l'avortement avec l'objectif affiché de faire revenir le sujet à la Cour suprême américaine. L'État d'Alabama a adopté mardi une loi très restrictive sur les IVG, les interruptions volontaires de grossesse. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo.
Faire monter le dossier à la Cour suprême est l'objectif avoué des opposants à l'avortement. Ils veulent convaincre les 9 juges de la haute cour à Washington de revenir sur Roe versus Wade, l'arrêt tant décrié par les militants pro-life. Les chrétiens conservateurs veulent profiter de la nomination par le président Donald Trump de 2 juges opposés à l'avortement qui ont ancré le temple du droit américain dans le camp conservateur. Pour les républicains, la Cour suprême sera forcée de se saisir du dossier vu le grand nombre de recours. À Montgomery, le Sénat de l'Alabama a voté mardi soir à une large majorité le projet de loi sur l'avortement le plus répressif du pays. Ce texte interdit les interruptions volontaires de grossesse, même en cas d'inceste ou de viol. Il prévoit une peine de 10 à 99 ans de prison pour les médecins pratiquant un avortement, sauf en cas d'urgence vitale pour la mère ou d'anomalie létale du fœtus. Plusieurs leaders démocrates ont dénoncé une attaque contre les droits des femmes à disposer de leur corps, ainsi qu'une atteinte à l'arrêt de la Cour suprême Roe versus Wade, qui a légalisé l'avortement en 1973 aux États-Unis.
Et pour terminer, le président américain Donald Trump doit annoncer aujourd'hui son plan tant attendu sur l'immigration. Dans un briefing à la presse, un haut responsable américain a expliqué que ce plan renforcera la sécurité à la frontière et créera un système fondé sur le mérite. Merci de votre attention.
change.